d'être un peu plus long. Bien, par où commencer ? Ah, ça tombe bien, vous avez beaucoup de livres ici, hein, c'est la journée des bouquinistes. Bah, tout a commencé avec l'imprimerie, en fait. Tout a commencé avec l'imprimerie, qui a été une révolution, hein, une véritable révolution, dès le milieu du XVe siècle, un peu comme la révolution numérique aujourd'hui. Puisqu'on a commencé à traduire le livre le plus connu, le plus courant, qui était la Bible. On a traduit la Bible en langue vulgaire, en français. Donc on a pu réaliser de ce qui se trouvait réellement dans la Bible. Bien, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et oui, donc il n'était pas question de vénérer toutes sortes de saints, de parler pour les morts, un certain nombre de choses. Et surtout, il n'était pas question de commerce des indulgences. Et oui. Alors, en 1517, à Wittenberg, en Allemagne, un religieux du nom de Martin Luther, lui, se révolte contre le trafic des indulgences. Imaginez qu'on pouvait acheter son pardon, acheter le paradis, en quelque sorte, en payant. En fait, cet argent récupéré par ce trafic des indulgences servait à construire le dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et oui, voilà à quoi servait tout cet argent. Donc, Martin Luther, lui, s'offusque. Rédige et plaque ses 95 thèse contre notamment ce trafic des indulgences. Et il va avoir des adeptes. Bonjour, vous êtes madame ?
Jacquard.
D'accord, merci. Il va faire des adeptes en Allemagne. Bien sûr, en Allemagne, l'Église essaye de s'en débarrasser. Il va être donc expulsé. Et puis en Suisse, un certain Ulrich Zwingli, 200 plus tard déjà, en 1519, va adopter ces idées et les divulguer dans la partie germanophone de la Suisse. Ulrich Zwingli avait des correspondants aussi dans notre pays. Alors, déjà, un certain Guillaume Farel, le voilà. Attention, ce n'est pas Calvin, c'est Guillaume Farel. Un certain Guillaume Farel, originaire de Gap, lui va divulguer les idées de Luther et de Ulrich Zwingli un petit peu partout, dans sa région, mais surtout dans la Suisse romande. D'accord ? La Suisse francophone. Guillaume Farel avait des correspondants ici à Grenoble. Un certain Edmond de Cocte et aussi un certain Pierre de Sibiville, qui vont prêcher ici. Mais le pauvre Pierre de Sibiville, lui, va être arrêté, exécuté, pendu et brûlé, déjà en 1525. Eh oui. Alors Guillaume Farel, lui, entend parler d'un Français, cette fois, Jean Calvin, originaire de l'Oise, qui avait fait des études de droit, de théologie, qui avait passé du temps aussi à Paris. Et il a de bons échos de cet homme-là et le fait venir en Suisse, notamment à Genève, qu'on cherche à convertir aux nouvelles idées. Donc Jean Calvin, dès 1536, écrit un ouvrage qui va beaucoup marquer les esprits, l'institution de la religion chrétienne. Il était catholique au départ, mais il s'est converti aux nouvelles idées assez rapidement. Et Jean Calvin va faire de la ville de Genève la capitale du protestantisme en Europe. Voilà. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Il y a eu des bonnes choses, des choses un peu plus controversées. Interdit de danser, de chanter. Bon, c'est un peu le régime des talibans, en quelque sorte, quand même. Il faut le dire comme ça. Hein. Bon, après, il y a eu de très bonnes choses aussi. Voilà Jean Calvin. Alors, Genève est devenue la capitale du protestantisme en Europe. Et beaucoup de protestants, enfin de gens qui ont adopté eh bien, les nouvelles idées, les idées de la réforme, vont rejoindre Genève. On va même avoir à Genève eh bien, carrément une académie qui formera les pasteurs. Et puis bon nombre de protestants vont fuir notre pays, on va y revenir, rejoindre Genève, s'installer comme horloger, imprimeur et autre chose. Donc on aura une forte proportion de protestants français qui s'installeront à Genève. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Bien. C'est toujours un peu complexe au début. Avant le XVIe siècle, déjà au XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, déjà vers 1180, à Lyon cette fois, il y avait donc un marchand du nom de Pierre Valdo qui, lui, a été un précurseur de ces nouvelles idées. Lui, dès 1180, il décide de tout quitter. Il veut revenir eh bien, à la pureté des évangiles et il fait des adeptes que l'on va appeler les vaudois. Ces vaudois vont être très rapidement persécutés, vont être gênants et vont se réfugier dans les vallées alpestres. Dans le nord de l'Italie, les vallées alpestres du nord de l'Italie, mais aussi dans les vallées alpestres de notre pays. Donc en Dauphiné, dans l'Oisans, par exemple, mais aussi dans le Briançonnais, mais aussi dans le Luberon. Donc les précurseurs de ces nouvelles idées ont été les adeptes de Pierre Valdo, les Vaudois. Les Vaudois, en 1532, à Champforens, c'est dans le Val-d'Agrogne, dans le Piémont, eh bien, vont rejoindre les protestants. Les réformés vont convaincre les Vaudois de les rejoindre. Voilà. Alors on trouve encore dans ces vallées alpestres du nord de l'Italie, assez reculées, des descendants eh bien, de ces Vaudois. Vous êtes madame ? D'accord, pas de souci. Est-ce que ça va ?
Pierre Valdo. C'est pour ça qu'on les appelle les Vaudois ?
Oui, le nom vient de Vaudois. Alors c'est pas le canton de Vaud, hein, je précise, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, petit résumé. En 1180, donc Pierre Valdo, on trouve aussi le nom de Pierre Valdès, voilà, qui décide de retourner à la pureté des évangiles, de tout quitter. Il fait des adeptes, les Vaudois, qui sont rapidement inquiétés, persécutés, qui se réfugient dans les vallées alpestres du nord de l'Italie et du Dauphiné, au sens très large, et plus que le Dauphiné, puisqu'il y a eu le Luberon aussi, là. Et puis, ensuite, eh bien, 1517, Martin Luther, qui, eh bien, rédige ses 95 thèses, qui fait des adeptes, qui est excommunié. Guillaume Farel, qui, eh bien, convertit la Suisse alémanique. Non, pardon, c'est Ulrich Zwingli, puis Guillaume Farel, qui convertit donc la Suisse romande, et puis l'arrivée de Jean Calvin, qui en 1536 écrit l'institution de la religion chrétienne et fait de Genève la capitale du protestantisme en Europe. Ça va ou non ? Petit ajout, au départ, une partie de l'Église catholique s'intéressait à ces nouvelles idées. Ça a été le cas, par exemple, à Grenoble. L'évêque Laurent Allemand Ier s'est intéressé à ses idées, par exemple. Même François Ier s'est intéressé à ses idées. Mais tout s'est gâté quand, en fait, les protestants sont venus l'inquiéter, eh bien, tout près de là où il habitait. C'est l'affaire des placards, comprenez, des affiches qu'on avait plaquées sur la porte de l'église dans laquelle se rendait François Ier. Là, c'en était trop. Ça s'est passé en 1534. Et à partir de 1534, il a commencé eh bien, à persécuter les Vaudois et puis donc les adeptes de Martin Luther, puis de Jean Calvin. Ça va ? Voilà. Alors, on voit bien que dès le départ, ça n'a pas été forcément très évident. En 1562, eh bien, les protestants, conduits par François de Beaumont, baron des Adrets, le voilà, assassinent le lieutenant du roi à Valence, un certain Lameau de Condrin. À partir de ce moment-là, eh bien, commencent les guerres de religion. Les guerres de religion vont durer 36 ans et ne s'achèveront qu'en 1598, avec l'édit de Nantes. D'accord ? Donc, en 1562, commencent les guerres de religion. On en aura 8, elles dureront 36 ans et ne s'achèveront qu'en 1598. En Dauphiné, alors je précise peut-être ce qu'était le Dauphiné. Aujourd'hui, vous savez, depuis la Révolution française, notre pays est divisé en départements. Le Dauphiné était une très vaste province qui comprenait qui correspond aujourd'hui au département de l'Isère, au département de la Drôme, une petite partie du département du Rhône et le département des Hautes-Alpes, qui lui aujourd'hui ne fait pas partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc c'était une très vaste province. L'Isère, la Drôme, une partie du Rhône et puis les Hautes-Alpes.
Pardon.
Par exemple. Alors, du coup, en Dauphiné, nous avons eu 3 chefs protestants. D'abord, le baron des Adrets, François de Beaumont, baron des Adrets, originaire donc de la région des Adrets, dans le balcon de Belledonne, qui lui s'est comporté comme un véritable boucher. En fait, lui a pillé les églises de Grenoble, mais pas seulement, de Lyon, de Vienne, il a incendié le monastère de la Grande Chartreuse et a massacré un certain nombre de personnes. Calvin lui-même, s'est offusqué de ça. Il s'est dit, c'est pas normal, ce gars est complètement fou. D'accord ? Et en fait, alors, non seulement il a commis toutes ces exactions, mais en fait, il a conduit ce qu'on appelle des campagnes d'iconoclasme. C'est-à-dire que les protestants veulent toujours en fait se débarrasser de toutes les représentations religieuses. On ne veut plus d'images et pas non plus d'objets liturgiques. Donc en fait, c'était une manière de dire, voilà, tout ça, ça ne sert à rien. C'est du matériel, la foi, c'est autre chose. Et c'est donc comme ça que les protestants ont été amenés à plier tout ça. Seulement voilà, tout ce qui a été récupéré a servi à alimenter, à financer les guerres. Donc en fait, François de Beaumont, baron des Adrets, avec ses campagnes d'iconoclasme, avec tous ces pillages, avec tous ces massacres, s'est fait très mal voir de la population, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, tout ceci a fait plutôt du mal aux idées de la réforme. S'il n'y avait pas eu cet homme-là, on aurait peut-être eu beaucoup plus d'adeptes de ces nouvelles idées. Malgré tout, les idées protestantes, les idées de la réforme, ont fait beaucoup d'adeptes en Dauphiné. Imaginez qu'on avait à ce moment-là à peu près 20% de la population à Grenoble qui avait adopté ces nouvelles idées. C'est pas mal. D'accord ? Et en Dauphiné, environ 13%. Alors lui, le François de Beaumont, le baron des Adrets, alors qu'il allait trahir les siens, on s'en est débarrassé. Et il est devenu catholique. Finalement, cet homme-là a passé plus de temps du côté des catholiques que du côté des réformés. Voilà. C'est quelqu'un qui était surtout ambitieux. On a eu, un deuxième chef du protestantisme en Dauphiné. Malheureusement, je n'ai pas de portrait de lui, En fait, j'ai trouvé un tout petit portrait, donc il n'est pas suffisamment grand pour qu'on puisse bien l'apprécier. C'était Charles Dupuis de Montbrun. Charles Dupuis de Montbrun était au départ catholique. Sa sœur installée à Genève était protestante, elle était mariée à un pasteur, et lui s'est rendu à Genève pour la convertir au catholicisme. Mais en fait, c'est la sœur qui l'a convertie au protestantisme. Et lui a mené les protestants du Dauphiné. Et Charles Dupuis de Montbrun a été un excellent guerrier, et avec une véritable foi. Il était absolument honnête dans sa foi. Très violent malgré tout. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer ce petit portrait. En fait, le gars était balafré et avait un visage pas très engageant quand même. Assez dur. Charles Dupuis de Montbrun était quelqu'un de très audacieux. Il a barré la route à Henri III, par exemple. Il a pillé ses bagages alors que Henri III revenait de Pologne. Et donc, Charles Dupuis de Montbrun a fini par perdre une bataille. Et le roi ne lui a pas fait de cadeau, il l'a fait exécuter. Donc on verra où tout à l'heure. Comme tous les nobles de l'époque, il a eu la tête tranchée. Troisième chef de l'armée protestante ici, François de Beaune, qui deviendra le duc de Lesdiguières. Alors oui, le stade Lesdiguières, c'est lui, l'hôtel Lesdiguières, c'est lui, la rue Lesdiguières, c'est lui, le duc de Lesdiguières. François de Beaune, originaire de Saint-Bonnet en Champsaur, donc au sud de Grenoble. Lui, s'est rallié aux idées de la réforme assez rapidement. Il a sans doute été influencé par sa femme, donc Claudine Béranger-Bugat. Et donc il a été le troisième grand chef, donc protestant du Dauphiné. C'était un excellent guerrier, c'était quelqu'un qui passait tout son temps à cheval, qui était particulièrement talentueux pour s'emparer des villes. Il était malin aussi, on l'appelait le renard du Dauphiné. Et donc, il va remporter pas mal de batailles. Il aura son fief dans le Trièves et en Matésine, mais aussi du côté de Serres, dans les Hautes-Alpes. Il va très très bien mener ses guerres. Il a été soutenu par Henri IV, donc il était un compagnon d'armes d'Henri IV, qui l'a nommé lieutenant général du Dauphiné, puis donc duc de Lesdiguières. Cet homme-là, après un certain nombre de tentatives, finit par s'emparer de la ville de Grenoble, et cela le 22 décembre 1590. Voilà, après trois mois de siège, après plusieurs tentatives, en passant par la montagne, par la Chartreuse, il s'empare de Grenoble. Donc formidable, il devient un très bon urbaniste pour Grenoble et un très bon administrateur pour la province du Dauphiné. Et sa grande œuvre va être de rétablir la paix. Voilà. Il va être un des trois commissaires nommés par Henri IV pour rétablir la paix. On sera en paix 8 ans avant le reste du royaume. Et oui, dès 1590, alors qu'en fait, la paix sera rétablie en 1598. Ça va pour tout le monde? C'est un peu compliqué. Dites-moi.
On parle de guerre et religion. Effectivement, il y a entre les catholiques et les protestants, mais il y a une raison politique derrière aussi. C'est pas juste...
Non, bien sûr, c'est toujours d'ailleurs le cas.
Ouais.
C'est toujours en fait, on crée des partis politico-religieux, politico-militaire, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux, bien entendu. Le duc de Lesdiguières rétablit la paix, fait appliquer l'édit de Nantes, puisqu'en 1598, Henri IV promulgue l'édit de Nantes, donc on rétablit la paix. Les protestants, obtiennent... le droit de conscience et de culte. Ils ont le droit d'avoir la religion qu'ils le souhaitent et de pratiquer leur culte. On verra que tout ça a été quand même très limité, mais voilà, c'est une très très grande avancée. Henri IV, qui est devenu catholique par la suite, bien entendu, pour pour pouvoir faire poids face à la Ligue catholique, bien sûr. En tout cas, voilà, Lesdiguières à Grenoble et en Dauphiné deviendra un peu le symbole de la paix, de l'ordre, et on lui doit beaucoup à Grenoble, on va en reparler. Hein. Donc il a vraiment transformé la ville, on lui doit la première Bastille, on lui doit un nouveau rempart autour de la ville, des agrandissements de places, des embellissements, la construction de plusieurs ponts, voilà. Son œuvre est immense. Oui, notamment, voilà, exactement. Et puis le pont de Clé, enfin, voilà, énormément de choses. Alors, le duc de Lesdiguières avait plusieurs propriétés. Sa propriété la plus célèbre est certainement le château de Visil, à 15 km au sud de Grenoble. D'accord, vous connaissez le château de Visil? Sinon, je vous conseille de le visiter. Voilà. Donc, il avait transformé un château médiéval en magnifique château de plaisance, dans un immense parc, avec une partie qui était son terrain de chasse, où le roi Louis XIII lui-même est venu chasser. Donc, et quand le duc de Lesdiguières résidait à Grenoble, il résidait là. C'est pour ça que nous avons rendez-vous ici. Donc, moi, je vous propose de quitter le kiosque à musique et de se positionner devant l'hôtel de Lesdiguières. Le duc de Lesdiguières a connu le règne d'Henri IV, mais aussi le règne de Louis XIII. Louis XIII, bien plus tard, lui a proposé de devenir connétable de France, c'est-à-dire chef suprême des armées du roi, à condition qu'il devienne catholique. Sans problème, le duc de Lesdiguières a retourné sa veste, est devenu catholique et donc connétable de France. Alors, on dit qu'il aurait pu être converti aussi par une prêche de François de Sales dans la collégiale Saint-André, on va passer tout près tout à l'heure. C'est la flèche que vous voyez là-bas. Voilà, on dit que François de Sales, qui était l'évêque de Genève réfugié à Annecy, était un excellent prêcheur. C'est en prêchant donc dans la collégiale Saint-André que le duc de Lesdiguières aurait été très impressionné, qu'il serait devenu catholique. On dit aussi que c'est sa maîtresse qui deviendra sa seconde épouse, Marie Vignon, que voilà, qui était catholique, qui aurait pu le convertir aussi. Rien n'est sûr. De toute façon, le duc de Lesdiguières a toujours été très ambigu par rapport à sa foi. Voilà, puisqu'on le sait, il avait sa place au temple. On sait que, il trouvait toujours le moyen de trouver des emplois à des protestants. Il avait de son côté des pasteurs, des régents, voilà. Donc, il a élevé ses filles dans la foi protestante, voilà, mais il a passé quand même beaucoup, beaucoup d'années à combattre les protestants, en pratique, par la suite. Donc voilà, un personnage assez ambigu, mais qui a eu le mérite de rétablir la paix à Grenoble, en Dauphiné, et de réaliser pas mal de choses. Ça va ? Bon. Question un peu compliquée au début. Donc voilà. Cette résidence, c'est l'hôtel de Lesdiguières. Le duc de Lesdiguières a transformé les vestiges du château des Dauphins, du château médiéval, dont il reste une tour ronde sur la gauche, en hôtel particulier. Et là où nous sommes, c'était le jardin privé du duc de Lesdiguières. D'accord ? En 1719, la ville de Grenoble a tout racheté, a transformé ce lieu en hôtel de ville. Donc notre hôtel de ville était là jusqu'aux Jeux Olympiques de Grenoble. Jusqu'à fin décembre 1967, donc juste avant les Jeux Olympiques. Et le jardin privé du duc de Lesdiguières est devenu un jardin public, le seul jardin public de la ville jusqu'au XIXe siècle. Bien, je vous propose de traverser... qu'est-ce qui est le mieux ? On peut traverser la Roseraie, on va se rendre place de Gordes, s'il vous plaît. Nous voici place de Gordes. Cette place, c'est la place de Gordes. Je vous présente Bertrand Simien de Gordes, qui, lui, était un chef catholique. Ce gars-là nous a évité une Saint-Barthélemy. Je m'explique. Le 24 août 1572, à Paris, les chefs protestants sont pris en embuscade. Ils sont massacrés. Et là, c'est l'avalanche. On massacre le plus possible de protestants. L'eau de la Seine était rouge. Un peu partout dans le pays, ça se passe de cette manière. Mais lui, donc Bertrand Simien de Gordes, qui était à la tête de l'armée catholique, ici en Dauphiné, reçoit un ordre, comme quoi il fallait donc massacrer les protestants, et se dit, mais c'est pas possible qu'un tel ordre vienne du roi Charles IX. C'est pas possible. Il y avait déjà un petit édit de tolérance, l'édit de Milan, à ce moment-là, enfin, qui était là depuis quelques années. Et donc, lui, il s'est dit, mais moi, je vais respecter cet édit. Il est hors de question que je massacre les protestants. Donc, grâce à cet homme-là, nous n'avons pas eu de Saint-Barthélemy. Alors, autre chose, en 1575, le duc de Lesdiguières, je reviens à lui, s'est battu contre l'armée catholique, menée par un certain Lavalette. Sur le plateau de Jarry, vous situez, c'est au sud de Grenoble, voilà. Et donc, vous savez, Jarry, Briand, Gonne, voilà. Et là, il y a eu une terrible bataille, une des plus importantes batailles de tous les temps dans notre région, donc, qui s'est déroulée... Excusez-moi, je vous ai dit 1575. Non, je me suis trompée. Je suis désolée, avec les dates, c'est un peu compliqué. C'est le 19 août 1587. Oui, 1580. Le 19 août 1587, donc la bataille de Jarry. Un certain nombre de mercenaires suisses protestants étaient donc du côté de Lesdiguières et ont perdu la vie. Plus de 1350 personnes ont perdu la vie ce jour-là. Donc, c'est une des plus grandes batailles de tous les temps dans notre région et personne n'en parle. Alors, j'ai appris récemment qu'enfin, on a posé une plaque par là-bas. Voilà. Ça vous parle ? Très bien. Bon, eh bien, je vous propose maintenant de rejoindre la place Saint-André. Oui, qui passait par là. Oui. Est-ce que c'était avec, est-ce que c'était avec Robert Ayot ? Non, vous ne savez pas ? Oui, alors moi je ne l'ai pas vu, c'est récent, hein, parce que je crois que ça s'est passé pendant les journées du patrimoine, là, au mois de septembre. Il y a eu une cérémonie. Oui, 19 août 1587. Nous voici donc sur la place Saint-André. Plusieurs choses à mentionner ici, donc la collégiale. Sachez que dès le XVIe siècle, dès le début du XVIe siècle, eh bien, les adeptes de la Réforme ont prêché ici. En fait, où prêchaient ces adeptes ? Eh bien, sur les lieux de culte, donc collégiales, cathédrales, les couvents, voilà. Et puis, c'est ici que François de Sales, eh bien, grâce à sa prêche, aurait converti le duc de Lesdiguières au catholicisme. À mentionner ici aussi notre parlement, ça c'est l'ancien parlement de la province du Dauphiné. Et pendant donc, à partir du moment où le duc de Lesdiguières a fait rétablir la paix ici, eh bien on a créé à Grenoble une chambre des édits, une chambre mi-partie. Donc on jugeait ici donc, aussi bien les catholiques que les protestants et on avait la même représentation au niveau des parlementaires. Alors, cette chambre des édits va disparaître par la suite. Mais bon. Alors, très important, pendant cette période de paix, eh bien, le duc de Lesdiguières a tout fait pour que, eh bien, on puisse exercer son culte vraiment comme on le souhaitait. Première chose, on avait aussi à ce moment-là ce qu'on appelait des places de sûreté à Angennes. Alors, on va se déplacer.
Cette chambre partie qui a été supprimée,
oui.
C'est sous Louis XIII.
Ça sera sous Louis XIV. Sous le règne de Louis XIV. Alors, on avait dans le royaume ce qu'on appelait des places de sûreté. Comme c'était le chaos, qu'on risquait sa vie non-stop, eh bien, on avait des places de sûreté, c'est-à-dire on garantissait aux protestants qu'ils ne seraient pas attaqués. Et Grenoble était une de ces places de sûreté. Ça veut dire que le gouvernement, eh bien, payait des soldats, payait l'armée, ici, qui arrivait comme garant, pour le maintien de l'ordre, absolument. D'accord ? Bien. Alors, dans ce Parlement, eh bien, travaillaient des parlementaires, des avocats, des juristes, et au XVIIIe siècle, alors là, on fait un grand bond en avant, ce monsieur-là, Antoine Barnave, était un jeune avocat. Antoine Barnave, eh bien, était protestant, puisque sa mère était protestante. C'était une protestante du pays de Montbéliard. Voilà. Et Antoine Barnave, eh bien, va devenir célèbre, car il va devenir un des deux meneurs de notre révolution, la pré-révolution dauphinoise, prélude à la Révolution française. Donc, la journée des Tuiles, la réunion des États de Grenoble, puis des États provinciaux. Il va devenir donc député du tiers-État, donc ensuite à Paris. Il aura une très grande importance au début de la Révolution française. Alors, Antoine Barnave, malheureusement, c'était un partisan d'une monarchie constitutionnelle, très modérée, en faveur de l'esclavage, par exemple. Hors de question d'abolir l'esclavage. C'est un des députés qu'on a chargé de ramener la famille royale en fuite à Varennes. Donc, il se trouvait dans le carrosse où se trouvait la famille royale. Et voilà, il a eu un peu pitié de la famille royale, surtout de Marie-Antoinette. Et il a commencé à entretenir une correspondance avec la famille royale, si bien qu'on a retrouvé cette correspondance, on l'a suspectée, arrêtée, emprisonnée, exécutée, alors qu'il n'avait que 32 ans. Voilà. Voilà le destin funèbre d'Antoine Barnave. Ce qui m'amène à vous parler un peu de ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Pendant la Révolution française, les protestants vont acquérir un certain nombre de droits. Alors ça commencera déjà avant la Révolution française, puisque dès 1787, eh bien, Louis XVI fait en sorte que les protestants aient droit à un état civil, ce qui n'était pas le cas. D'accord ? Donc ils obtiennent un état civil. Et puis, en 1789, est clairement écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les protestants ont les mêmes droits que les autres. Donc, droit de conscience, et le droit de culte ne sera obtenu qu'en 1791. Voilà. Je vous propose maintenant d'avancer un petit peu jusqu'à la place aux herbes.
Quelque part,
oui. Alors bon, moi je les ai jamais vus vraiment, mais oui, de toute façon, oui, c'est certainement possible de les voir, parce que non, je pense pas, non. Alors, j'ose pas trop m'avancer, mais non, elles n'ont pas été détruites, parce que écoutez, moi j'ai une photocopie de la page de couverture de ces fameux édits. Oui. L'esprit des édits. Donc non, tout ça, c'est possible de le trouver soit aux archives municipales, soit aux archives départementales. On a aussi, vous savez, à la Bibliothèque d'études et du patrimoine, on a ce qu'on appelle le fonds dauphinois, où là, vous pouvez, alors, sur demande, vous pouvez avoir accès à certains documents. Alors, on va s'arrêter là.